Salut, c'est Steven Jambaud de l'Atelier des médias, l'émission à l'écoute des évolutions, révolutions des médias et de la société numérique. On est ensemble pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous nous écoutez en podcast. Depuis le début de l'année, en France, plus de 135 femmes sont mortes, assassinées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Ce sont ce que l'on appelle des féminicides. Pour alerter sur ce phénomène très inquiétant qui perdure, une marche devait se tenir samedi 23 novembre à Paris, à l'initiative du collectif Nous Toutes. Les violences contre les femmes sont aussi une réalité en ligne, sur Internet. C'est de ça dont on va parler cette semaine avec toi, Camille Sarrazin. Bonjour.
Salut Steven.
Camille, tu es journaliste dans l'équipe de l'Atelier des médias et tu as souhaité travailler sur ce sujet pour rappeler que les violences contre les femmes sur le numérique sont un fait. Tu as commencé par recueillir le témoignage d'une femme victime de cyberviolence.
On va écouter Joséphine, puisque c'est le prénom d'emprunt qu'elle s'est choisi. Elle a la cinquantaine et je l'ai rencontrée chez elle à Paris.
Alors j'ai rencontré un homme sur Internet déjà, mais c'était dans un cadre politique, donc on s'est rapproché. Il s'est avéré que c'était un homme qui a exercé des violences psychologiques très fortes. Après, ça s'est mal terminé, à l'hôpital psychiatrique pour moi en tout cas. Et après, quand je m'en suis un peu sortie, il a commencé à me parler de photos qu'il avait de moi. Il avait ouvert un Tumblr où il mettait des photos de moi, en coupant la tête, puisque je n'étais pas reconnaissable quand même. Mais lui avait les photos avec ma tête. Et à chaque fois que je... Parce qu'il me devait beaucoup d'argent. À chaque fois que je lui réclamais cet argent, il me disait qu'il pouvait pas. Et puis, il me disait « Ah tiens, je suis tombée sur tes photos, elles sont jolies. » Voilà, c'était juste comme ça, pour me faire peur. Donc, ça a vraiment été pendant un temps assez longtemps une menace que mes photos arrivent par la poste, ici, chez moi, donc ma famille n'étant pas au courant, que mes photos débarquent sur Internet. Alors, pas son nom à lui, parce que sinon il passerait pour le salaud, mais en créant un autre compte. Et donc j'ai vécu quand même de longs mois avec cette angoisse qui faisait que j'arrivais vraiment pas déjà à tourner la page. En fait, un jour, j'ai complètement assumé et je me suis dit, et puis tant pis, quoi, ça fait partie de ma vie et je vais pas vivre avec ça. Donc un jour, je l'ai contacté et je lui ai dit que je voulais mon argent et que mes photos, il en faisait absolument ce qu'il voulait, que j'avais plus peur du tout.
Ce qu'a vécu Joséphine porte un nom, c'est du revenge porn.
Oui, on parle de revenge porn ou de porno-divulgation en français lorsque des contenus intimes sont diffusés sur Internet sans le consentement de la personne. J'ai discuté de la situation de Joséphine avec Aurélie Latouresse. Elle est chargée d'études au centre Hubertine Auclert, l'observatoire régional des violences faites aux femmes, et elle a travaillé sur le sujet.
Oui, alors effectivement, ce témoignage, il fait écho à ce qu'on a pu documenter dans l'enquête, notamment les formes de cyberviolence à caractère sexuel, le fait que ça concerne aussi, et c'est intéressant dans le témoignage, une femme qui a 58 ans. Contrairement aux idées reçues, de manière générale, les cyberviolences conjugales concernent toutes les femmes, y compris les femmes plus âgées. On a pu voir, par exemple, sur le fait d'imposer en fait des relations sexuelles qui soient filmées. C'était un phénomène qui concernait aussi les femmes de plus de 50 ans, contrairement à certaines idées reçues. Et effectivement, c'est un puissant outil de chantage ensuite, comme on peut le voir là. Donc c'est des formes de cyberviolence nouvelles, on va dire, en tout cas, qui pourtant sont punies par la loi. Donc ça, c'est aussi nouveau. Et ça, c'est la bonne nouvelle quelque part. Le droit évolue et permet aussi de sanctionner ces agissements-là. Donc depuis 2016, une loi interdit et condamne de façon très stricte la diffusion de contenus à caractère sexuel sans le consentement. Donc là, par exemple, le cas qui est présenté dans ce témoignage est passible de 2 ans de prison et 60 000 euros d'amende.
L'enquête dont parle Aurélie Latouresse est une étude qui a été réalisée en 2017 par le centre Hubertine Auclert sur les cyberviolences dans le couple. Elle m'explique pourquoi c'était important d'avoir des chiffres sur cette question.
Alors, on avait déjà réalisé en 2016 une étude sur les cyberviolences à caractère sexiste et sexuel chez les jeunes adolescents et adolescentes au collège et au lycée. Et beaucoup de professionnels avec qui on est en lien au sein de l'Observatoire régional des violences faites aux femmes, des professionnels qui travaillent à l'accompagnement des femmes victimes de violences, des femmes adultes, nous avaient dit que ce sont aussi des phénomènes qu'on rencontre chez les femmes qu'on accompagne, et notamment dans le cadre du couple. C'était déjà des phénomènes qu'on pouvait voir chez les jeunes, hein, dès les premiers couples, en fait. On voit aussi que les formes d'emprise peuvent aussi se matérialiser via le numérique. On a voulu enquêter davantage sur ce phénomène-là. Le premier constat qu'on a fait, c'est qu'il n'y avait aucune donnée, en fait, peu d'enquêtes, en tout cas en France, qui permettaient de documenter les cyberviolences dans le cadre du couple. Donc on est parti sur l'idée de réaliser nous-mêmes une étude, ou plus précisément une recherche-action. On avait à cœur de pouvoir impliquer justement les professionnels qui accompagnent les femmes victimes de violences conjugales dans cette dynamique-là. Donc c'est une enquête qu'on a réalisée auprès des femmes victimes de violences conjugales qui sont accompagnées par des structures spécialisées, que ce soit dans le secteur associatif ou dans des unités médico-judiciaires ou par des professionnels du droit. Et on leur a posé un certain nombre de questions sur les violences qu'elles ont pu subir via le numérique de la part de leur partenaire ou ex.
Et donc quelles sont les cyberviolences que vous avez pu constater et quelles sont les plus courantes finalement ?
9 femmes victimes de violences conjugales sur 10 ont aussi subi des cyberviolences de la part de leur partenaire ou ex. Et ces violences, elles commencent en même temps que les autres formes de violences, que ce soit des violences psychologiques, physiques ou sexuelles. Elles prennent aussi des formes qui peuvent impliquer le numérique. Puisqu'on avait comme hypothèse au départ que c'était principalement après la séparation que les cyberviolences pouvaient s'installer dans le couple, mais on voit qu'en fait elles peuvent s'accentuer après la séparation, mais elles sont bien présentes tout au long en fait du phénomène d'emprise qui se met en place. L'agresseur, le partenaire en tout cas violent, va utiliser considérablement le numérique pour mettre en place l'emprise.
Et donc c'est des cyberviolences qui vont aggraver les violences qui existent déjà ou finalement c'est juste une continuité ?
Le numérique va à la fois permettre aux agresseurs, hein, finalement là aux partenaires violents, va leur permettre facilement d'avoir des outils qui vont faciliter finalement la mise sous contrôle de leur partenaire ou de leur ex, aussi à distance. C'est des outils qui sont très simples d'utilisation et qui peuvent permettre vraiment une mise sous contrôle très importante d'une ampleur très vaste, hein. Et c'est en ce sens-là que ça aggrave pour les victimes, hein, les conséquences. Vraiment, dans les recueils de témoignages qu'on a pu avoir, les femmes parlent vraiment du sentiment de toute puissance de l'agresseur qu'elles ressentent en fait vraiment très fortement. Donc il y a cet effet d'aggravation en fait des conséquences pour les victimes, d'isolement, de difficultés. Ça va avoir des conséquences sur les démarches qu'elles vont pouvoir ou pas engager, puisqu'elles vont avoir le sentiment que tout est contrôlé en fait par leur partenaire, tous les moindres déplacements. Et donc ça va aussi avoir un impact très important sur les difficultés à demander de l'aide et à engager justement ces démarches d'aide.
Et dans l'étude, vous parlez de cybercontrôle. Déjà, qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce que ça se met en place ? Et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que femme pour se protéger contre ça ?
Alors le cybercontrôle, c'est la forme de violence à travers le numérique qui est la plus répandue, en tout cas dans l'enquête. Ça concernait quasiment toutes les femmes, quel que soit l'âge. C'est vraiment aussi parce que c'est au cœur en fait du mécanisme des violences conjugales, la mise sous contrôle. Ce qu'on a pu voir, en tout cas, les formes de cybercontrôle facilitées par le numérique, c'est tout ce qui va permettre en fait aux partenaires violents de pister en fait tous les déplacements, de pouvoir aussi être informé de toutes les relations sociale entretenue, donc tous les contacts qu'il peut y avoir sur le téléphone, les échanges en fait de SMS ou les appels qui sont passés. Ça passe par tout simplement le fait de ce qui revenait très régulièrement, le fait d'exiger en fait de pouvoir consulter l'historique d'appels ou l'historique d'échanges sur les réseaux sociaux, quels que soient les usages en fait des femmes. Ça, c'est un puissant outil de contrôle qui en plus va culpabiliser les femmes qui acceptent finalement de se mettre sous contrôle, parce qu'on sait bien que si elles refusent en fait d'ouvrir par exemple leur historique d'appel à la fin d'une journée, elles peuvent être du coup l'objet de représailles, y compris physiques ou autres, et donc elles sont quelque part vraiment enfermées dans cette contrôle dans lequel l'agresseur fait en sorte qu'elles aient une part active. Donc ça va aussi être difficile pour elles après d'en parler parler, puisqu'elles vont dire, bah oui, effectivement, il sait exactement avec qui je parle, il m'interdit de parler avec telle ou telle personne, mais effectivement, il le sait parce que je lui donne accès à mon historique d'appel. Après, il faut rappeler qu'en fait, il exige d'avoir accès à l'historique d'appel, et si on revient sur le cadre de la loi, en fait, exiger de contrôler ou de regarder les emails ou les SMS, c'est interdit par la loi. C'est le délit de secret de correspondance. Ça aussi, c'est des choses qui sont importantes à faire connaître pour les femmes, savoir qu'il y a un point d'appui, que c'est interdit en fait, et du coup qu'elles peuvent tout à fait, en tout cas, s'outiller pour le refuser.
L'atelier des médias, tous les samedis sur RFI.
He hit me and it felt like a kiss.
On va maintenant parler d'une notion, la cybersurveillance. Pas celle menée par des gouvernements sur leurs citoyens, non, mais celle qui s'exerce dans le couple lorsqu'un conjoint fouille le téléphone de sa compagne.
Pour la majorité des femmes victimes de violences interrogées dans l'étude, plus de 70% en fait, la cybersurveillance a été imposée par le partenaire violent. Il y a parfois un logiciel espion installé par le conjoint, mais ce qui apparaît, c'est que le plus souvent, les femmes victimes ne donnent pas librement leur code ou leur mot de passe, c'est plutôt le conjoint abusif qui les oblige à le faire.
Camille, tu as également interviewé une journaliste, Anaïs Condomine.
Oui, avec Emmanuelle Friedman, elle a écrit un livre sur le cyberharcèlement. Elles ont recueilli les témoignages de deux femmes victimes de cybersurveillance.
Moi, ce qui m'a frappée, c'est que chez ces deux jeunes femmes, au départ, elles se sont rendues compte de rien. C'est-à-dire que c'est des mécanismes qui se mettent peu à peu, et même elles-mêmes au début, alors elles étaient toutes les deux très jeunes quand ça s'est passé, mais toutes les deux, elles ont par exemple pris l'initiative de donner d'elles-mêmes le code de leur ordinateur ou d'accès à leur smartphone pour éviter les crises, pour éviter les problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? À mon sens, ça veut dire qu'elles étaient déjà dans un couple où existait une situation de contrôle, voire de violence, et il se trouve d'ailleurs que ces deux femmes ont subi pour l'une des violences physiques, pour l'autre des violences psychologiques. Et donc, ce qu'on voit là encore, c'est que les cyberviolences, c'est pas détaché de tout le reste, ça se situe dans un contexte de violence plus général.
Les conséquences peuvent être graves pour ces femmes. Ça peut aller beaucoup plus loin que simplement lire des correspondances. Avec les codes d'un compte Gmail, par exemple, on peut suivre les déplacements de sa partenaire si elle utilise Google Maps sans avoir besoin d'installer un logiciel sophistiqué.
C'est ça. Après, il ne faut pas non plus paniquer si votre petite amie connaît votre code pour déverrouiller votre téléphone. J'ai demandé à Aurélie Latouresse, qu'on a entendu tout à l'heure, à quel moment il fallait commencer à s'inquiéter.
Quand c'est sous cette forme d'exiger, en fait, c'est déjà un signe qui effectivement peut alerter. On a réalisé avec un des partenaires, notamment la ville de Paris, l'Observatoire départemental du 93, une association qui est membre du Centre Hubertine Auclert, en avant toute, ont réalisé un violentomètre qui permet justement d'être un indicateur, un outil intéressant pour justement mesurer, indiquer à partir de quand finalement il faut être vigilante. Et dans ce violentomètre, on voit déjà insérer des éléments de cyberviolence. Par exemple, fouiller les textos, mails et applis figurent parmi les éléments qui doivent pouvoir aussi alerter. Le côté, le faire à l'insu, exiger de pouvoir regarder ses mails ou ses applications, ce sont des éléments qui mettent sous contrôle la partenaire.
Et quelles sont les conséquences pour les femmes, puisque c'est extrêmement anxiogène de savoir qu'on est suivi ou qu'on doit donner ses mots de passe dès que notre téléphone est fouillé? Est-ce qu'il y a des conséquences psychologiques?
Oui, et d'ailleurs, la dernière forme de cybersurveillance qu'on a pu observer, c'est le sentiment de cybersurveillance. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas forcément, ne savent pas forcément s'il y a un logiciel espion qui a été mis en place. Elles ne savent pas vraiment si elles avaient partagé les codes ou s'il a pu les découvrir, parce que parfois, ces codes-là sont facilement repérables, en fait, quand on vit ensemble les dates de naissance des enfants ou d'autres éléments qui sont, partagent la vie intime, peuvent être donc découverts facilement. Donc elles savent pas si elles ont été mises sous surveillance, mais elles ont le sentiment que le partenaire sait des choses qu'elles ne leur ont pas forcément dit. Par exemple, il est au courant de tel rendez-vous avec tel médecin, alors qu'elles sont sûres de ne pas lui en avoir parlé. Et ce sentiment de cybersurveillance, il est très généralisé parmi les femmes auprès desquelles on a enquêté. Donc les femmes victimes de violences conjugales vivent aussi avec ce sentiment que tout ce qu'elles font peut être est susceptible d'être contrôlée.
Et quand finalement elles arrivent à partir, enfin, on voit de toute manière dans les violences conjugales que le moment de la séparation, c'est un moment très dangereux pour les femmes. Dans le cas de cyberviolence, vous parlez ensuite de cybercontrôle qui se fait via les enfants. Une fois que les femmes sont parties, comment ça se met en place ?
Après la séparation, le partenaire violent peut continuer à maintenir des communications avec ses enfants. Et via ces communications-là, il va pouvoir user de pression pour obtenir des informations. Par exemple, si son ex-partenaire a choisi de dissimuler sa nouvelle adresse ou de ne pas l'informer sur son nouveau travail, ou il va utiliser à travers les échanges avec les enfants via les applications, il va chercher à obtenir ces informations. Ça met les enfants dans une situation très compliquée vis-à-vis de leur mère. Et c'est des formes de violence auxquelles les professionnels, mais aussi les femmes, ne sont pas forcément préparées. Dans l'enquête, on a posé la question, en tout cas, sur les femmes au moment de la séparation. Est-ce qu'elles avaient pensé à protéger aussi leurs outils numériques, à changer les mots de passe, notamment d'un certain nombre d'applications, de leurs mails ou autres? Généralement, elles ont eu ce réflexe-là. Par contre, elles ont beaucoup moins souvent le réflexe de faire la même chose pour les outils de leurs enfants. Et de la même manière, il serait important de pouvoir accompagner les enfants à savoir comment gérer ces situations où l'ex-partenaire, le père en l'occurrence, là, peut chercher à obtenir ces informations-là. Les prévenir que, par exemple, sur les réseaux sociaux, il vaudra mieux qu'ils fassent attention à ne pas poster des photos qui pourraient permettre d'identifier ce qu'ils ont fait tel ou tel week-end. Enfin, voilà. Donc, c'est des conseils, en fait, qu'il faut aussi penser en direction des enfants.
Il y a aussi une certaine forme de contrôle qui se maintient. Vous parlez de cyberviolence administrative, donc j'imagine que ça, c'est aussi au moment de la séparation. Par exemple, pouvoir empêcher son ex-femme de toucher les aides en les gardant sur son compte, ce genre de choses.
Et les cyberviolences, en tout cas les violences administratives à travers le numérique, là, trouvent des moyens très très simples de pouvoir vraiment considérablement entraver toutes les démarches que les femmes vont pouvoir engager. Et on voit en fait que le partenaire va pouvoir changer, par exemple, les comptes qui sont associés au versement de telle ou telle prestation. C'est des démarches qui peuvent être faites en ligne. C'est des démarches qui sont assez simples et pour lesquelles parfois il y a simplement besoin d'accéder à un email. Il suffit que le code, enfin le mot de passe de cet email soit connu, partagé ou facilement identifiable. Et c'est toutes ces démarches-là qui peuvent être recontrôlées en fait par le partenaire violent ou l'ex à distance. On a pu voir aussi des situations dans l'enquête où le partenaire, l'ex-partenaire, au moment de la séparation, avait pu accéder à des informations sur le téléphone de la victime. Notamment, on a eu un cas en particulier où il avait pu installer un dispositif de surveillance sur l'ordinateur. Il avait vu qu'elle s'était inscrite sur une application de rencontre. Il avait fait des captures d'écran et il avait réussi à utiliser ces éléments-là dans la procédure de divorce qui était en cours et notamment dans la procédure pour la garde des enfants comme argument en disant que effectivement c'était pour décrédibiliser en fait sa fonction parentale en tant que mère. Donc là on voit que accéder en fait à ces éléments-là sur le téléphone, sur l'ordinateur, ça va aussi entraver les démarches, en tout cas pouvoir manipuler des démarches administratives, les démarches judiciaires après la séparation.
Finalement, contre toutes ces formes de cyberviolence, après cette étude, qu'est-ce que vous préconisez ?
Alors, ce qu'on préconise déjà, c'est de bien être vigilant pour les professionnels qui sont en contact avec des femmes victimes de violences conjugales, de bien être vigilant à la dimension des cyberviolences, c'est-à-dire de poser systématiquement la question concernant aussi les cyberviolences, que ça fasse partie de la boîte à outils de tous ces professionnels-là. Parce que, par exemple, les violences psychologiques sont parfois difficiles à prouver, mais si on pose la question des cyberviolences, on voit en fait qu'il y a des preuve finalement et que ces violences psychologiques qui se passent beaucoup via le numérique vont pouvoir être documentées beaucoup plus facilement. Et donc c'est pour ça que c'est important de systématiser en tout cas le repérage de ces formes-là de violence. C'est important pour les démarches de protection, c'est important aussi pour les femmes pour pouvoir mettre des mots sur ce qui n'est pas autorisé, qui est interdit par la loi, qui ne fait pas partie d'une relation de couple saine. Donc c'est important de pouvoir poser cette question-là. Ça suppose que les professionnels en contact avec les femmes victimes de violences, tous les professionnels de la chaîne pénale, donc police, mais aussi justice, soient formés en fait sur les cyberviolences, qu'ils connaissent bien en fait les dispositifs prévus par le code pénal ou par le code civil. On a réalisé à cet effet un tableau récapitulatif en lien avec le ministère de la Justice et avec des avocats, avocates, pour justement rappeler toutes les infractions sur lesquelles les professionnels et les femmes aussi doivent pouvoir s'appuyer. Et puis, de manière plus générale, il semble important de pouvoir aussi outiller les femmes victimes de violences conjugales sur la réappropriation des outils numériques. Ça, c'est vraiment important aussi de pouvoir identifier ces failles de sécurité, se réapproprier aussi sa vie privée, dont beaucoup passent aujourd'hui par les outils numériques. On sait qu'il y a un sentiment d'incompétence plus important chez les femmes de manière générale que chez les hommes par rapport au numérique. Et c'est aussi sur ces failles-là que les agresseurs vont pouvoir très facilement imposer aussi le sentiment de toute-puissance. C'est pas forcément nécessairement des agresseurs, ne sont pas tous nécessairement des geeks, mais ils vont donner cette impression-là. Souvent, ils vont avoir, par exemple, aidé leur partenaire à installer le téléphone, et à travers cette aide, ils vont savoir exactement comment contrôler ce téléphone. Donc, c'est important aussi de mettre à disposition des femmes victimes de violences conjugales des outils simples pour pouvoir se réapproprier leurs propres outils et espaces numériques. On a réalisé à cet effet un site internet, Je protège ma vie privée en ligne, qui rassemble justement tous les conseils simples qui doivent pouvoir s'adresser à toutes les femmes en autonomie pour pouvoir se rassurer aussi sur sa capacité à se réapproprier sa vie privée en ligne.
Alors, former aux outils numériques semble être un début de solution, Camille, mais il semble que même celles qui sont le plus à l'aise avec le numérique sont aussi l'objet de violences en ligne.
Oui, former aux outils numériques ne suffit pas. On entendait tout à l'heure la journaliste Anaïs Condomine. Il faut savoir que si elle a décidé d'écrire un livre sur le cyberharcèlement, c'est parce que, comme de nombreuses femmes, elle en a elle-même été victime.
Alors, je me suis lancée sur ce sujet en compagnie d'Emmanuel Friedman, puisque moi aussi j'ai été victime en tant que journaliste de cyberharcèlement. Ça remonte au début de l'année 2017, quand j'ai réalisé une enquête sur le forum 1825, sur le forum jeuxvideo.com. J'avais fait à l'époque une enquête pour donner la parole aux victimes de cyberharcèlement qui existaient via ce forum. Et puis moi aussi, évidemment, j'ai été la cible des mêmes personnes. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Alors ce livre, c'était pas pour faire un livre sur moi, mais plutôt pour donner la parole aux victimes et aussi essayer de comprendre les mécaniques à la fois du côté des agresseurs et plus largement de la société en général.
En parlant de jeux vidéo, dans le livre, vous évoquez toutes les deux le Gamergate. Qu'est-ce que c'est et en quoi c'est symptomatique un peu du cyberharcèlement ?
Alors le Gamergate, ça remonte à 2014. Il s'agit d'une développeuse de jeux vidéo, Zoe Quinn, qui a été prise à partie par une large partie de la communauté du jeu vidéo. À la base, c'est parce qu'on disait qu'elle avait eu des accointances avec un journaliste qui avait fait des bonnes critiques sur son jeu, etc. Donc, c'était tout un débat sur le favoritisme, sur les liens entre les médias et le jeu vidéo. Mais en sous-texte, ce qu'on a mis un petit peu de temps à voir, c'est qu'en fait, c'était une débâcle complètement sexiste contre cette personne et qu'elle l'a extrêmement mal vécu. Et d'ailleurs, elle a même failli mettre fin à ses jours, c'est ce qu'elle dit, sans mes amis et sans la communauté autour de moi, je ne serais même pas là pour en parler aujourd'hui.
Est-ce que les femmes sont plus victimes de cyberharcèlement ? Est-ce que le cyberharcèlement est souvent teinté un peu de sexisme, comme dans cette affaire-là ?
Alors, il manque des chiffres et des données précises et en grand nombre sur le sujet. Moi, j'appelle vraiment les chercheuses, les chercheurs et les sociologues à se pencher davantage sur le sujet. On a quand même néanmoins quelques études, notamment Amnesty International en 2018, qui démontre que sur les réseaux sociaux, sur Twitter particulièrement, les politiciennes et les journalistes, femmes, reçoivent environ un message haineux toutes les 30 secondes. Et cette proportion de risque, elle augmente de 84% pour les femmes noires. Donc qu'est-ce qu'on voit dans ces chiffres ? C'est qu'en fait, on retrouve exactement les mêmes dynamiques qui sont à l'œuvre dans la société en général. Pourquoi ? Parce que Internet est la société, est la vraie vie, et qu'il n'y a pas de différence entre notre vie non numérique et la vie numérique. La seule frontière bien tangible, en fait, c'est l'écran du smartphone, mais au-delà de ça, on y retrouve exactement les mêmes dynamiques. Donc oui, les femmes sont davantage exposées sur les réseaux sociaux parce qu'on est dans une société qui n'a pas du tout réglé les problèmes de sexisme, de racisme, etc.
Ce qui est assez inquiétant aussi, je trouve, c'est que vous écrivez que, par exemple, dans le cas du cyberharcèlement dans le couple, que les petits amis n'étaient pas du tout, vous dites qu'ils n'étaient pas du tout des hackers professionnels. Donc, en fait, ça veut dire que, par exemple, pour traquer sa petite amie avec son téléphone portable, c'est à la portée de tout le monde.
Ça revient à dire que un cyberharceleur, c'est pas un monstre. Et que selon nos responsabilités, selon la façon dont on se comporte toutes et tous, on peut toutes et tous être potentiellement des harceleurs ou des harceleuses. Il faut en avoir conscience pour pouvoir éviter les comportements qui sont violents ou oppressifs envers les autres. Effectivement, les personnes harceleuses qu'on nous décrit dans le livre et puis celles avec laquelle j'ai pu m'entretenir aussi, qui avaient participé à un raid à mon encontre, ce sont pas des hackers professionnels, loin de là, ce sont des gens comme vous et moi, qui sont insérés dans la société, qui ne sont pas des asociaux, et ça c'est important de le savoir pour mieux combattre le phénomène. Effectivement, oui, c'est à la portée de tout le monde de trouver le mot de passe de sa copine sur son ordinateur, ou même de trouver des mouchards sur les téléphones, hein, à brancher pour suivre son ex ou sa copine actuelle. C'est évidemment à la portée de tous.
En fait, les outils numériques peuvent aggraver peut-être des violences qui existent déjà, mais c'est pas ça qui les crée.
Oui, c'est ce qu'on écrit dans le livre, c'est que les réseaux sociaux, les géants du web, ce sont pas les grands méchants de notre époque. Donc effectivement, il peut y avoir les phénomènes de masse qui effectivement peuvent accentuer le harcèlement et le ressenti de terreur, vraiment. Il y a aussi l'anonymat qui, dans une certaine mesure, peut encourager des gens à commettre des actes répréhensibles sur Internet. Mais il faut savoir que ce ne sont pas les bons coupables, les vrais coupables, parce que par exemple, le réel anonymat sur Internet, il existe très très peu, c'est très très rare. On peut tous être sous le régime du pseudonymat, et l'anonymat, normalement, s'il y avait une bonne coopération entre la police et les plateformes, les géants du web, on pourrait retrouver tous les gens derrière leur adresse IP. Alors, à savoir, il faut encore que cette coopération se fasse dans de bonnes conditions. C'est autre chose.
Finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ces cyberviolences ? Est-ce que c'est plutôt des actions par rapport aux outils numériques ou plutôt des actions avoir une influence sur la société et le comportement des individus ?
Effectivement, je pense que tant qu'on n'aura pas réglé les problèmes d'oppression sexiste, raciste, antisémite, islamophobe, qui existent dans toute la société, alors on retrouvera ces mêmes mécanismes sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Donc, à mon sens, il y a un vrai travail de la part des pouvoirs publics qui consisterait à lutter contre toutes les discriminations. Et je dis bien toutes les discriminations. On voit bien avec le climat actuel que c'est pas du tout le cas. Et puis, il y a un deuxième volet qui est effectivement une question d'éducation. Aujourd'hui, j'enfonce une porte ouverte, mais tous les gamins naissent quasiment avec un téléphone portable dans leur poche. Et je pense qu'effectivement, peut-être, en cours de route, on a oublié de leur dire qu'il fallait pas oublier la bienveillance et l'empathie. Et ça, c'est des choses qui mériteraient de faire partie d'un apprentissage peut-être bien encadré, peut-être à l'école, peut-être en cours d'instruction civique, par exemple, pour savoir comment se comporter de manière civilisée sur Internet, parce que c'est pas une zone de non-droit. Moi, à mon avis, c'est aussi important de savoir ça en 2019 que de connaître toutes les institutions de la République et notre histoire, etc. Pour moi, c'est au même niveau d'importance.
C'était la journaliste Anaïs Condomine, co-autrice de Cyberharcèlement, bien plus qu'un mal virtuel, paru en septembre chez Pygmalion. Camille, deux ressources françaises sont à signaler à nos auditeurs et auditrices.
Oui, tout d'abord pour les victimes de violences conjugales, le 3919, un numéro d'écoute anonyme et gratuit, accessible 7 jours sur 7. Et le site stop-cybersexisme.com avec plein de ressources pour se protéger contre le cybersexisme ou porter plainte.
Et lundi sera la journée internationale contre les violences à l'égard des femmes.
Oui, et cela marquera aussi la fin du Grenelle ouvert en France par la secrétaire d'État aux droits des femmes Marlène Schiappa. On regardera avec attention ses conclusions et notamment sur le volet numérique.
Merci beaucoup Camille.
Merci.
On sera donc sans doute amené à en reparler dans l'atelier des médias. On va prolonger notre sujet du jour avec Mondoblog Audio. La mondoblogueuse camerounaise Martine Ndo nous raconte les violences psychologiques qu'elle a subies de la part de son ex-mari.
10 ans après, je porte toujours des cicatrices. Oui, 10 ans. Pourtant, il ne m'a jamais frappée. J'étais jeune. Je venais de fêter mes 16 ans et ma première année en tant qu'orpheline. Un soir, À la fin de mon service, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari, mon bourreau. Il y en a un bel homme, élégant et toujours bien vêtu. Il a tout pour plaire à une femme, et il le sait. Il m'a séduite dès les premiers rendez-vous. Et au bout de 2 mois de relation, nous nous sommes mariés. Il paraît que la nuit des noces est magique, mais moi je ne le saurai jamais. C'est cette nuit-là que mon calvaire a commencé. Pas un jour ne passait sans qu'il me rappelle à quel point j'étais pauvre lorsqu'il m'a rencontré. Sans qu'il me rappelle que c'est lui qui me nourrit, qui me loge et qui est chargé de la scolarité de mes frères. C'est à cause d'eux que je supportais, qu'il me rabaisse et qu'il m'humilie sans cesse. Après la 4e année de notre mariage, j'ai fait une fausse couche à 7 mois de grossesse. C'était dur pour moi. Mais en plus, il me disait chaque fois que j'étais nulle. Nulle au point que je n'arrivais pas à garder une grossesse. Dieu merci, je suis vite tombée enceinte à nouveau. Mais cela n'a rien changé. Monsieur ne voulait pas me donner de l'argent pour mes visites médicales. J'ai passé toute ma grossesse à la maison sans voir un médecin. Au bout de 9 mois, j'ai mis au monde une magnifique petite fille. Je pensais que l'enfant allait le faire changer. Mais rien. Un soir, alors que je changeais la couche de notre fille, il a remarqué qu'elle avait les fesses un peu rouges. Il l'a amenée vivre chez sa mère, car décidément pour lui, j'étais une incapable. Ce fut la raison de ma première tentative de suicide. Un jour, lors de la 6e année de notre mariage, je me suis mise à saigner énormément, sans comprendre pourquoi. J'étais seule. Il était parti en mission depuis 2 semaines, n'ayant pas de téléphone. La seule solution que j'avais pour chercher du secours était de franchir le mur qui me séparait des voisins. Grâce à une échelle dans la cour, j'ai sauté de l'autre côté du mur. Ensuite, je ne me souviens plus de rien. Je me suis réveillée à l'hôpital. Dès ma sortie, je suis allée vivre chez mon frère. J'ai demandé le divorce. Il a obtenu la garde de notre fille, mais je la vois de temps en temps. Je suis épanouie. Et aujourd'hui, je vis.
Mondoblog.org.
C'était Martine Do, la mondoblogueuse camerounaise. Vous pouvez retrouver son billet « Les coups ne sont pas toujours physiques » sur son blog Neyame. Et rendez-vous sur mondoblog.org pour retrouver tous nos mondoblogs audio. C'est la fin de cette émission que vous pouvez, je vous le rappelle, écouter en version longue en podcast. Merci à Camille Sarrazin et à Simon Decreuse qui a assuré la réalisation. La semaine prochaine, c'est Julien Lebot qui me remplacera au micro pour une émission enregistrée à N'Djamena, au Tchad, dans le cadre du festival Novembre Numérique. Ce sera un nouveau numéro de l'Atelier des médias.